Il y a une statistique qui m'a jeté à terre. Que les entrepreneurs allaient mal, je pensais jamais à ce point-là. La première statistique qui m'a le plus choqué, c'est que la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs, c'est le suicide. La première, c'est la crise cardiaque. La troisième, c'est le cancer. C'est fou. Il y a plus d'entrepreneurs en Amérique du Nord qui meurent par suicide sans lever la vie. Mais personne n'en parle.
Dominique Gagnon, tu es le président et cofondateur de l'entreprise Connectingo, une organisation technologique québécoise spécialisée dans les solutions de paiement pour les parcs d'attractions et pour le volet événementiel en général. Au-delà de ta carrière en affaires riche en succès, tu es également auteur de 3 livres. J'aime les zèbres, J'aime les TDAH et le dernier en date est Si l'entrepreneuriat rendait fou, un livre qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui qui pose un constat assez alarmant.
J'ai cherché un livre sur la santé mentale des entrepreneurs, puis je pense que s'il y en avait eu un, je ne l'aurais pas écrit. Et évidemment, quand on arrive à un stade où ta détresse, que tu peux parler à personne, te met une si grande pression, malheureusement, peut-être qu'on fait partie des gens qui vont le plus au bout de cette démarche-là. Et ça m'a énormément choqué.
Analyser des situations complexes et amener des solutions innovantes, ça, c'est un des points qu'on définissait un petit peu de quelqu'un qui a le trait de la douance. Est-ce que c'est un point que tu partages?
Oui. 100%. 100% parce que ça va tellement vite qu'on est brûlé.
Donc, bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Et cette semaine, j'ai la chance de parler avec Dominique Gagnon. Pour les gens qui ne connaissent pas Dominique Gagnon, on parle ici d'un entrepreneur ayant eu énormément de succès au Québec, qui a fondé l'organisation Piranha il y a plusieurs années de cela maintenant. Un succès monstre avant, malheureusement, d'avoir certains enjeux qui ont poussé l'organisation à devoir faire faillite. Mais Dominique a été capable de se retrousser les manches et de lancer une autre organisation, Connectingo, qui encore une fois, cette fois-ci, a eu un succès énorme et a toujours un succès énorme. Mais comme n'importe quelle organisation, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Mais aujourd'hui, c'est pas pour le succès de Connectingo ou encore le succès de Piranha qu'on parle avec Dominique. Au contraire, c'est pour parler d'un des hobbies qu'il a, un hobby qui est relié à l'écriture. Parce que oui, Dominique a écrit jusqu'à maintenant 4 livres tout en dirigeant des entreprises de manière simultanée. Et le dernier livre en date se nomme « Et si l'entrepreneuriat rendait fou ?» Un livre que j'ai eu la chance de lire tout récemment et qui, je vous le dis tout de suite, est assez frappant. Un livre qui nous démontre que les entrepreneurs, plus souvent qu'autrement, on pense qu'on est des super-héros, qu'on n'aura pas de soucis, que tout va bien. Mais au final, on est des humains. On est des humains comme tout le monde et on peut avoir des hauts. Et des fois, nos hauts sont très hauts et on peut avoir des bas. Malheureusement, des fois, nos bas sont très bas. Dans le livre que Dominique a écrit et a sorti récemment, il y a plusieurs témoignages qui refont surface un peu d'une maladie qui hante beaucoup d'entrepreneurs. Je donne une statistique qui est assez alarmante. La deuxième cause de décès la plus fréquente chez les entrepreneurs est le suicide, après des enjeux qui peuvent être liés aux problèmes cardiaques, c'est pour dire. Et dans le livre « Si l'entrepreneuriat rendait fou », on voit que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup plus qu'on le pense, qui sont proches de nous, malheureusement, se sont enlevés la vie après avoir eu beaucoup de soucis à l'intérieur même de leur organisation. Et je lève mon chapeau à Dominique parce qu'il a eu le courage de faire un livre là-dessus et d'en parler. Parce que lui aussi, il a eu des enjeux. Juste pour vous donner un peu de contexte, son entreprise Connectingo fait partie de la catégorie événementielle. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu ce que peut se dérouler quand le COVID a frappé à nos portes. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Comment il a été obligé de pivoter son entreprise? Et au final, bien entendu, ça crée des enjeux personnels. Encore une fois, je le répète, Dominique aujourd'hui va bien. Il a été capable de se retrousser les manches. Mais encore une fois, faut comprendre que ces réalités-là, plusieurs entrepreneurs les vivent. Il y a également du bon à être entrepreneur. Souvent, on est un profil de personnalité qui est totalement différent des autres. On est TDAH, peut-être qu'on a même un petit peu de douance. On en parle d'ailleurs dans le podcast et Dominique en parle également dans le livre. Bref, on aborde tout ça. On a une discussion très honnête, très transparente par rapport aux enjeux. Et je pense que ça vaut la peine que vous ayez vous procurer ce livre que j'ai lu en quelques jours seulement, qui vaut la peine de comprendre vraiment ce qui peut se dérouler dans la tête des entrepreneurs. Et d'ailleurs, je lève mon chapeau pas juste à Dominique, mais à tous les gens qui ont fait des témoignages à l'intérieur de ce livre-là. Également, j'ai la chance de vous dire que Dominique Gagnon va être avec nous le 24 mai prochain pour les panels d'hypercroissance. On va parler ensemble d'évolution de modèle d'affaires. Et on va parler ensemble également d'économie. Donc, je pense que c'est un bon moment pour lancer ce podcast-là avec lui aujourd'hui. On parle de son livre et on parle également du panel d'hypercroissance. Panel d'hypercroissance qui, encore une fois, je le répète, ne pourrait pas avoir lieu sans nos incroyables partenaires. Et le premier que j'ai nommé, c'est Klaviyo. Klaviyo qui est une plateforme de marketing relié à l'email marketing qui donne la possibilité aux entreprises de rejoindre leurs clients cibles mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, une plateforme qu'on recommande chez Gisette et chez Pure Commerce, qu'on utilise avec tous nos clients et qu'on utilise avec notre entreprise. Klaviyo, qui est une organisation qui est en train de prendre toutes les parts de marché. Dans le passé, on pouvait entendre davantage MailChimp, davantage d'autres plateformes prendre la place, mais Klaviyo devient vraiment la plateforme de choix pour les boutiques en ligne et pour les autres types d'entreprises. Si vous n'avez pas testé Klaviyo, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce que cette plateforme-là peut faire pour votre entreprise. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Le deuxième partenaire pour cet événement, panel d'hypercroissance, c'est le groupe Plante. Le groupe Plante qui est dirigé par Simon Plante. Simon Plante, qui je le dis encore une fois à chaque podcast, et pour ceux que c'est la première fois qu'ils vont écouter ce podcast-là, c'est lui personnellement qui gère mon argent. Donc, je lui fais confiance. Depuis que je travaille avec lui, j'ai des excellents rendements à la bourse. J'ai des excellents rendements avec l'argent qui est placé avec lui et son entreprise. Si vous aimeriez avoir un deuxième regard sur vos finances, si vous aimeriez que Simon gère votre propre portefeuille, allez voir son site internet, rentrez en contact avec Simon. Vous allez voir, c'est un professionnel. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi qu'il parle quand on parle de dynamique économique, de dynamique boursière. Et d'ailleurs, Simon va être avec nous le 24 mai prochain pour un panel avec Dominique Gagnon. Donc, définitivement, allez jeter un petit coup d'œil à ce que le groupe Plante fait au quotidien. Et le troisième partenaire également qui est avec nous pour cet événement, c'est Acombago. Acombago, qui est une plateforme de comptabilité, un logiciel de comptabilité pour plus de 40 000 PME à travers le Québec. Imaginez un peu, 40 000 PME. Ils font confiance à Acombago. Donc, Acombago, vraiment une plateforme tout à fait exceptionnelle. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode parce qu'ils font un concours. Ils font un concours où ils vont offrir 3 mois gratuits, littéralement 3 mois gratuits aux gens qui vont participer au concours de Acombago. Donc, si vous aimeriez en savoir un petit peu plus, allez voir le lien dans les notes de l'épisode. Également, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou encore YouTube. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Dominique Gagnon, tu es le président et cofondateur de l'entreprise ConnectingGo, une organisation technologique québécoise spécialisée dans les solutions de paiement pour les parcs d'attractions et pour le volet événementiel en général. Au-delà de ta carrière en affaires riche en succès, tu es également auteur de 3 livres. J'aime les zèbres, j'aime les TDAH et le dernier en date, Et si l'entrepreneuriat rendait fou, un livre qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui qui pose un constat assez alarmant, la santé mentale des entrepreneurs. Dominique Gagnon, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, je te reprends, j'ai écrit 4 livres. Donc le TDAH, ça me prenait un peu plus de temps, fait que j'en ai écrit 2 sur le TDAH. Question. On dirait que c'était plus long à comprendre à ce moment-là, fait que j'ai écrit effectivement 4 livres avec mon petit dernier.
Que 4 livres, qu'une entreprise comme ConnectingGo qui ne continue de croître. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas que de croissance qu'on veut parler, Dominique. On veut décortiquer peut-être une cause qui, ou plutôt un enjeu dans le monde des affaires que peu de gens parlent, mais que toi, tu as eu le courage de parler. Mais avant toute chose, je voudrais juste comprendre, qu'est-ce qui pousse à écrire autant de livres? Tu vois, je me suis même trompé, je pensais que c'était 3, maintenant tu me dis que c'est 4. Qu'est-ce qui te pousse à écrire autant de livres?
En fait, c'est je pense que la première chose, comme bien des entrepreneurs, puis ça va faire un petit lien avec la santé mentale, je pense qu'il y a une petite revanche de la vie. Je suis dyslexique et dyscalculique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement, quand je lis, j'ai une difficulté sur ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage. Donc, une difficulté à lire, j'inverse les lettres et j'inverse les chiffres. Et je me rappellerai toujours à l'école, on m'avait dit « probablement que tu ne seras jamais vraiment capable de bien écrire. Et probablement que tu ne seras jamais capable de bien lire. » Et aujourd'hui, je suis un fan un peu comme toi de lecture. J'adore lire, j'adore le livre. C'est moi, le papier, la lecture, c'est quelque chose que j'adore et j'adore écrire. Je pense qu'il y a peut-être une petite frustration enfouie en moi parce qu'il y a énormément de choses dans mon parcours qui est un peu des vengeances d'une certaine façon, sans dire que je garde énormément d'amertume. Parfois, je me venge un peu, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que l'écriture, pour moi, c'était peut-être un peu une thérapie. T'sais, j'ai écrit le premier livre sur les TDAH. Pour être très, très transparent avec toi, l'idée initiale, c'était pas de l'écrire. J'étais avec Kim Rusk, j'avais fait une entrevue de radio. J'avais découvert que moi et Kim, puis on se connaissait pas à ce moment-là, on était pareil. T'sais, on blaguait de dire qu'on avait sûrement notre père ou notre mère en commun parce qu'on était 2 TDAH complets. Mais on faisait partie, il y a 10 ans, des seules personnes qui disaient que c'était cool d'être TDAH, que c'était un avantage. On était capable de l'utiliser. Puis je me rappelle, on avait dit, si c'était une peinture, le TDAH, une couleur, on peinturait nos murs cette couleur-là. Et on s'était dit, il faudrait changer les choses. Et c'est quoi être un entrepreneur? C'est être fâché de quelque chose puis vouloir régler le problème. C'est souvent ça. Donc, on s'était dit, on va payer quelqu'un pour écrire un livre positif sur les TDAH avec des histoires. Ça va être un succès. Le problème, c'est qu'on a payé quelqu'un qui n'était pas TDAH pour écrire le livre. Et je me rappelle qu'on a reçu le premier manuscrit. On avait de la difficulté à finir la phrase pour se rappeler du début. Parce que ça, c'est un trait classique des TDAH. Et on a écrit ce livre-là en à peu près 2 semaines. Moi et Kim, en mode intense. Le livre a fait tout le monde en parle. Un peu plus de 20 000 copies qui ont été écoulées au Québec. Énormément de messages de support. Et moi, ça m'a aidé parce que d'écouter l'histoire des autres m'a appris à mieux me comprendre. Deuxième livre sur le TDAH, parce que le deuxième, c'est des duos. Puis moi, j'avais des difficultés dans mes relations intimes. Des difficultés parfois au niveau plus de la famille. Et je cherchais à mieux le comprendre. Donc, deuxième livre, je cherchais un peu à répondre à ça. Comment les gens sont capables de fonctionner ensemble quand ils le sont tous les deux ou quand ils sont très, très différents. Et j'ai écrit le troisième sur la douance parce que j'ai appris très tard que je pensais qu'énormément de mes problèmes étaient liés à mon TDAH sur les stéroïdes. Mais en fait, j'ai découvert que 80% des choses qui aujourd'hui me donnent des difficultés peut-être, c'est vraiment plus la douance qui est un mot que je déteste. Parce que quand je te dis de la douance, j'ai l'air plus intelligent que les autres, mais c'est tellement pas ça. Pour donner une petite statistique le fun sur la douance, c'est 2% de la population, mais c'est 20% des hommes en prison. Et 75% des doués n'iront jamais à l'université. Donc, quand tu googles doué, tu vois un petit Einstein. Quand tu googles TDAH, tu vois des petits Anna. Moi, je pense pas que c'est la vérité. Je pense que Google se trompe dans sa sémantique parce que la douance ne veut pas dire ça. Donc, j'ai écrit un livre sur la douance. Et le dernier, c'est un peu une série en santé mentale. J'avais jamais écrit sur l'entrepreneuriat. J'écrivais évidemment pour les affaires à chaque semaine. Mais j'ai découvert à quel point il n'y avait rien. Encore une fois, un trou dans le marché. J'ai cherché un livre sur la santé mentale des entrepreneurs. Puis je pense que s'il y en avait eu un, je l'aurais pas écrit. Parce que je cherchais principalement à mieux comprendre. Je me demandais, est-ce que je suis devenu entrepreneur parce que je suis fou ou je suis devenu fou parce que je suis entrepreneur? C'est un peu la thèse du livre. Et de là, l'écriture du quatrième livre qui est sorti récemment, qui est celui-là, je ne te cacherai pas, qui est peut-être le plus difficile pour moi à avoir écrit parce que ça mélange deux passions, l'entrepreneuriat, mais aussi les défis de santé mentale.
Bien sûr. Et je pense que peut-être autant qu'il a pu être difficile à écrire de ton côté, il va être difficile à lire pour certaines personnes, vous allez le voir. Bon. J'ai lu le livre, Dominique, un bouquin qui est assez fascinant pour ceux qui nous écoutent. Je vous invite à aller vous procurer le livre assez rapidement. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. J'aimerais commencer par toi ici parce qu'il y a quelques chapitres que tu abordes, que tu parles de ta réalité personnelle. Toi, de ton côté, tu as connu des hauts et des bas avec ta première entreprise, Piranha, qui a été un succès monstre au départ, qui finalement s'est terminé en queue de poisson sans faire de mauvais jeu de mots. Par la suite, Connect & Go. De décrocher des contrats, Jeux olympiques, Super Bowl. Du jour au lendemain, il y a eu la COVID, domaine événementiel, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Je laisse l'audience imaginer un petit peu ce qui s'est déroulé. Et à ce moment-là, tu as connu des moments assez sombres. Tu l'expliques dans le livre. Tu es tombé dans l'alcool quand tes enfants allaient se coucher. Un premier verre, un deuxième, un troisième, un quatrième verre de scotch. Tu rentrais au bureau en pleurant. Peux-tu peut-être nous ramener un petit peu à cette période-là pour donner du contexte à l'audience? Parce que je pense que, à mon avis, ce livre a dû être écrit en partie relié à ces moments quand même assez complexes que tu as vécu au moment de la COVID et peut-être même un petit peu plus tôt dans ta carrière avec Piranha.
Ouais, je te dirais que Piranha a été, je pense, le plus difficile. En fait, la COVID a été difficile parce que j'avais vécu ce premier échec-là. Puis, tu vois, l'échec de Piranha, je constate que je le méritais. L'échec de Piranha, c'était un gros one-man show. Ça tournait énormément autour de moi, de ma personnalité. J'avais un besoin insatiable de reconnaissance. Et c'est un peu ce qui a amené à la fin, à me faire frauder. Donc, je me suis fait voler, si je peux le dire comme ça, 1,7 million de dollars quand j'ai arrêté de compter. Je pense que c'est peut-être plus que ça. Une fraude très bien ficelée, mais qui incluait de ne pas avoir payé les TPS TVQ. Donc, je suis passé de l'entrepreneur de l'année Desjardins aux comptes spéciaux chez Desjardins en l'espace de 6 mois. Et si les gens ne savent pas c'est quoi les comptes spéciaux, je blague souvent que ce n'est pas être spécial. Définitivement, ils devraient changer de nom parce que vous n'êtes pas attendu avec une petite coupe champagne aux comptes spéciaux. Donc, c'est les comptes qui s'occupent des entrepreneurs qui vont mal, des entreprises qui vont mal. Et je peux vous garantir que quand tu rentres là, c'est pas facile. Et toute cette histoire-là, parce que je ne raconterai pas tous les moments, mais c'est terminé par une proposition consommateur. C'est terminé par la compagnie, j'ai réussi à la vendre. J'ai réussi à la passer à quelqu'un d'autre d'une certaine façon. Mais de mon côté, Revenu Québec sont assez intransigeants, je peux vous garantir qu'il y avait des centaines de milliers de dollars de TPS TVQ pas payés. Et j'ai dû en venir à la décision de dire, OK, je vais faire faillite. Une faillite personnelle pour un entrepreneur, c'est dur. Tu deviens un paria économique. Et ça a été extrêmement difficile. Donc, ça a été difficile parce que je me suis rendu compte qu'énormément des gens que je pensais mes amis n'étaient plus là. Parce que j'avais plus cet égo-là. J'avais ma famille, on a reçu une vingtaine de huissiers qui viennent cogner souvent, on dirait qu'ils s'amusent à venir tôt le matin, la pression sur la famille. Moi, je viens d'un milieu modeste. Je ne peux pas demander de l'argent à mes parents. C'était impossible de le faire. Et ça a vraiment été assez difficile que j'en suis venu jusqu'à un certain moment à me dire, sûrement que mourir serait la meilleure solution. Et c'est toujours difficile de parler de ça. Puis chaque fois que j'en parle, j'ai un peu le mouton aussi parce que Tu sais, j'ai de la misère à dire qu'avec ma personnalité fonceuse, ambitieuse, etc., j'ai pensé à deux reprises dans ma vie à m'enlever la vie. Cette fois-là, ça a vraiment été creux parce que quand tu montes haut, tu redescends vite bas. Mais j'ai réussi à rebondir. Fait que, tu sais, j'ai réussi à ce moment-là à rebondir avec Connect & Go. Fait que j'ai eu quelques autres projets entre-temps qui m'ont aidé un peu à rebattre ma confiance, je fais de la consultation et Connect & Go arrive. Belle histoire. Comme tu dis, je repars sur une belle histoire, mais avec des bases plus solides, avec une équipe plus solide, avec beaucoup moins d'ego. Parce que je peux vous garantir, quand vous avez fait faillite, là, l'ego, à toutes les fois qu'il faut que vous cochiez la case, j'ai déjà déclaré faillite quand vous allez à la banque, ben, je peux te garantir que ça remet ton ego vite, vite, vite à la bonne place. Et Connect & Go, succès. Super Bowl, Jeux Olympiques, Festival d'été Québec, Oceaga, la Formule 1. C'est merveilleux. On allait vivre notre meilleure année de notre vie en 2020. On avait gagné les Jeux Olympiques. On était sur le Paris Saint-Germain. Je sais que tu es un fan de soccer. Donc, on avait pitché au PSG tout le système de cashless. On allait faire la Coupe du Monde. On allait faire les plus grands festivals. On se remettait toujours de Fire Festival. Mais on avait déjà commencé à réfléchir à aller dans les parcs d'attractions. Donc, on avait débuté, mais on était pour notre meilleure année dans l'événementiel. On avait acheté une compagnie pour un peu plus $1 million qui était un peu dans le monde des parcs pour commencer. Et en l'espace de un mois, annulé, annulé, annulé. On a perdu 98 % de nos revenus. La compagnie que j'ai achetée pour plus $1 million, j'ai dû la revendre à son même propriétaire $100 000. Même un peu moins, si je me rappelle bien. Je ne pouvais plus rien faire avec. 10 mises à pied, à peu près par jour, sur Zoom. Les premiers 5 millions de capitaux que j'avais levés, disparus, parce qu'on l'a brûlé pour survivre. Et là, je me suis dit, j'ai fait faillite une fois. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi la pression. Je sais c'est quoi le jugement. Parce qu'au Québec, on aime juger. Et là, je me dis, ben, je vais pas m'en tirer. Et sincèrement, j'ai commencé, comme je le raconte dans le livre, à boire. Et ça a été le premier échappatoire. Les entrepreneurs, statistique importante, 4 fois plus de chances d'être toxicomane ou alcoolique. Puis quand vous y pensez, avec le nombre de 5 à 7 qu'on se fait, etc., c'est assez logique, mais aussi, les entrepreneurs s'automédicament énormément. On va souvent s'endormir le soir parce qu'on est insomniaque avec de l'alcool, avec de la marijuana, et énormément vont se réveiller le matin en prenant des neurostimulants comme de la Vivance, même s'ils ne sont pas TDAH, la cocaïne dans certains cas. Et si on se met la tête dans le sable, il y en a beaucoup plus qu'on pense dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à boire beaucoup. Ça a été très, très difficile, mais si tu m'avais vu, Antoine, et je pense, je me rappelle pas c'était quand notre entrevue, mais tu sais, t'es pas loin de là. J'avais l'air bien baissé. J'étais comme, non, nous autres, on va se relever, on y va, all in. Et c'est le problème des entrepreneurs, c'est qu'on est des bons menteurs. Tu sais, Pam, quand elle a lu le livre, était très fâchée parce qu'elle a découvert plein de choses qu'elle savait pas, que j'y avais jamais parlé. Et après l'alcool, parce que rapidement, je me suis fait dire, entre autres par ma conjointe, tu sais, Dom, c'est peut-être le temps qu'on arrête de te trouver un petit peu lendemain de brosse, couché sur le plancher ou couché sur le divan en bas. Il faut que tu te reprennes en main. Donc, je me dis, c'est vrai. Donc là, j'essaye de me reprendre un peu. Je suis tombé dans un trouble alimentaire. Aujourd'hui, je suis hyperphagique. En fait, j'ai transféré l'alcool pour la nourriture. Je me suis mis à manger 3 Big Mac avant de souper, à boire du sirop d'érable. Des trucs complètement illogiques. Et tu vois, je combats encore ce trouble alimentaire-là que j'ai développé durant la pandémie, qui est une façon de gérer mes émotions. Mais au-delà de tout ça, ben moi, je pensais que j'allais faire faillite, que j'allais pas me relever. J'ai fait deux choses. J'ai repensé, en fait, à m'enlever la vie parce que j'ai, moi, un de mes plus gros actifs, comme bien des entrepreneurs, c'est une assurance vie. Mmh. Je me suis dit, si je perds tout, la seule façon de sauver la famille, qui ne vivent pas encore cette pression-là d'une faillite, j'ai 2 jeunes enfants, ben, c'est peut-être de m'assurer de mourir sans que personne sache que c'était prévu. Et comme bien des entrepreneurs, parce que j'ai entendu bien des histoires depuis 2 mois de gens qui se sont enlevés la vie, malheureusement, c'était un peu comme une business. J'étais en train de planifier ça quasiment comme un plan d'affaires pour m'assurer que ça tienne la route, m'assurer que ça fonctionne. Et j'ai eu une entrevue dans la presse, une journaliste qui m'appelle en disant, tu sais, Dominique, ça doit pas aller super événementiel, international, comment tu vois la santé mentale aujourd'hui? Puis j'ai quand même tout balancé d'un coup. Mm-hmm. J'ai dit, je pars dans mon auto, je suis tombé dans l'alcool, c'est extrêmement difficile. Puis je me rappelle, la veille que l'article devait sortir, je me dis, elle peut pas publier ça. Tu sais, c'est quoi l'image que je vais avoir? Moi, j'essayais de convaincre mon investisseur principal de remettre 2 millions dans l'entreprise pour la sauver. Je me disais, hey, il va lire cet article-là. Je vais jamais remettre l'argent. L'article est sorti, puis j'ai fini par me dire, fuck off, que ça sorte. Et ça a fait 2 choses. La première chose, ça a fait que mon équipe de direction ont su que j'allais pas bien. Parce que, pareil, devant eux, j'avais l'air d'un conquérant. J'avais l'air invincible. Je mettais 10 personnes à pied sur Zoom, pas de l'an. J'étais capable d'être très froid. J'étais capable d'être très calculateur quand j'en avais besoin. En fait, je jouais dans une pièce de théâtre mon propre rôle. Et là, ils ne pouvaient plus se mettre la tête dans le sable. Ils ont vu que j'allais pas bien. Donc, ils sont débarqués. Ils m'ont dit, Dom, c'est pas vrai qu'on va te laisser tomber. On va le faire en équipe. On va se relever. Et pour la première fois dans ma carrière, j'ai pas été seul au sommet. et un des gros sentiments qu'on a. Et de l'autre, ben, l'aspect d'en parler ouvertement, un, ça m'a fait du bien. Et la deuxième chose, j'ai tellement vu d'entrepreneurs qui m'ont écrit en me disant « je vis la même chose, je ne vais pas bien, etc. Mm. » Mais ça, on ne peut pas continuer à ne pas parler de ça. Donc, ça a été en mode rapide. Les deux moments où je suis tombé le plus bas, mais l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster. Chaque jour, je vis des hauts et je vis des bas. Il y a des semaines où je vis des très gros bas. Il y a des semaines où je vis des très gros hauts. Mais ça fait partie de la game.
Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, il y a des statistiques qui sont assez impressionnantes dans le livre. Juste pour donner un peu de contexte avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, 72 % des entrepreneurs seraient touchés par des problèmes de santé mentale contre 48 % pour des non-entrepreneurs. C'est encore plus vrai pour les toutes petites entreprises que les moyennes ou les grosses. D'ailleurs, les organisations qui feraient moins de 2 millions de chiffres d'affaires, on peut retrouver cette statistique-là dans le livre. Les propriétaires de ces entreprises-là sont encore plus touchés par ça, plus fragilisés parce que l'entreprise tourne autour d'eux. Ces statistiques-là, Dominique, est-ce qu'elles t'ont surprise? Puis est-ce que ça a été ça un petit peu qui t'a ouvert l'esprit de dire, là, c'est le temps peut-être d'en parler un petit peu plus globalement avec l'entièreté de la communauté d'affaires?
Il y a une statistique qui m'a jeté à terre. Que les entrepreneurs allaient mal, je ne pensais jamais à ce point-là. Mais je pensais quand même, évidemment, qu'il y avait quelque chose déjà qui se passait dans l'écosystème. La première statistique qui m'a le plus choqué, c'est que la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs, c'est le suicide. La première, c'est la crise cardiaque. La troisième, c'est le cancer. La troisième, c'est fou. Il y a plus d'entrepreneurs en Amérique du Nord qui meurent par suicide, s'enlever la vie. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle et ça m'a choqué. Parce que je ne pensais pas que les entrepreneurs en venaient si souvent à cette décision-là. Et quand tu y penses, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va au bout de ses idées. C'est peut-être ça le problème. C'est que, évidemment, quand on arrive à un stade où ta détresse, que tu peux parler à personne, te met une si grande pression, malheureusement, peut-être qu'on fait partie des gens qui vont le plus au bout de cette démarche-là. Et ça m'a énormément choqué. Et Isabelle Hudon, au lancement du livre, qui est la présidente de la Banque de développement du Canada, a dit quelque chose que j'ai adoré au lancement du livre. Elle a dit, une fois que tu sais, tu ne peux plus ne rien faire. Donc, le déni, hein, c'est confortable, mais la réalité, elle a fait un sondage à la BDC en disant est-ce que les entrepreneurs vont bien? Puis elle reçoit que 72 % des entrepreneurs clients de la BDC ont des défis de santé mentale, ils ne sont pas capables de se payer un psy parce que le psy, il y a deux problèmes. Ça coûte cher et ils ne sont pas disponibles. Ben, elle a dit, OK, une fois qu'on reçoit, on a demandé cette question-là à nos entrepreneurs, on reçoit la réponse. Si on ne fait rien, on devient responsable. On devient en partie responsable de contribuer à ça parce que les gens nous disent, je tends la main, j'ai besoin d'aide. Moi, la banque, je ne le ferai pas. Donc, la BDC, on lance un programme où ils aident. Je me rappelle bien que c'est 500, mais je suis plus certain du chiffre. Entrepreneurs avoir accès gratuitement à de l'aide psychologique s'ils ont des moments plus difficiles. Donc, les statistiques m'ont surpris, pas tant que ça, mais c'est surtout l'ampleur, je dirais, qui m'a un petit peu plus surpris dans les stats. Et le livre couvre deux choses qui ne m'ont vraiment pas surpris, par contre. C'est à quel point il faut être fou pour être entrepreneur. Et quand je dis futur, c'est pas négatif. Tu sais, le mot fou, là, tu sais, on voit les ailes psychiatriques. Pour moi, fou. Il fallait être fou pour faire une bibliothèque dans une poche comme Jeff Bezos a fait avec Amazon. Il fallait être fou pour faire ce que Zuckerberg a fait et les grands de la tech. Mais la folie, qui est la neurodiversité, un peu pour moi aussi, ben, on le voit. 10 fois plus de troubles bipolaires, si je me rappelle bien, 6 fois plus de TDAH, 5 fois plus de douance. Donc, l'aspect de ne fitter nulle part, souvent aussi, c'est ce qui nous pousse à entreprendre. Et ça, je trouve que c'est le côté positif quand même du livre. C'est-à-dire que souvent, quand on est différent, l'endroit où on se sent le mieux, c'est dans l'entrepreneuriat.
Non, totalement. Et il y a plusieurs points vraiment intéressants, des points positifs qui sortent du livre, mais j'aimerais quand même continuer à lever le voile un petit peu sur des statistiques assez éloquentes que tu as mentionnées, que la deuxième cause de mortalité pour les entrepreneurs après les enjeux cardiaques, c'est le suicide. Il y a un chapitre assez touchant, marquant, que je préviens les gens qui nous écoutent. Attachez votre sucre quand vous allez lire ce chapitre-là, c'est sur Caroline Bergeron. Oui. Donc, une ex-propriétaire de restaurant, connu beaucoup de succès avant de voir le COVID lui littéralement voler la vente de son entreprise. Caroline qui avait vendu son organisation, vendu son restaurant pour un prix très intéressant de ce qu'on voit dans le livre. Vous aurez compris qu'avec la COVID, l'achat a été mis sur pause et finalement ne s'est pas matérialisé comme elle le voulait. Une entrepreneure qui maintenant est devenue artiste, mais qui a commis deux tentatives de suicide. On apprend d'ailleurs dans le livre que le suicide, comme tu l'as mentionné, est aussi important dans les causes de mortalité pour les entrepreneurs. Moi, je te pose une question, Dominique, puis je pense qu'on est là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour lever le voile avec les auditeurs du podcast Hypercroissance qui, en majorité d'entre eux, sont des entrepreneurs. Comment qu'on peut prévenir ça? Comment qu'on peut ouvrir peut-être la réflexion pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, les entrepreneurs, que oui, on aime ça la croissance, oui, on aime ça l'hypercroissance, mais à un certain moment donné, c'est peut-être le temps de mettre le frein et de se poser les bonnes questions, savoir si notre santé mentale est bonne pour pas aller au bout de ces idées noires-là qui peuvent des fois nous submerger.
Ils peuvent arriver vite, quand tu l'as dit, Caro, on parle de deux tentatives de suicide sur une très courte période de temps. Et ce qui est le plus dur dans cette histoire-là, c'est qu'elle avait promis à sa famille, à son mari, de ne pas le faire une deuxième fois. Elle est allée jusqu'au une deuxième fois. Aujourd'hui, pour connaître Caro, là, je peux te dire qu'on est très, très chanceux qu'elle se soit ratée deux fois et qu'elle n'ait pas réussi à se rendre au bout de ce projet-là parce que c'est une personne exceptionnelle qui vient justement donner une conférence à mes employés sur la santé mentale la semaine prochaine et qui aujourd'hui est une artiste hors pair. Et peut-être un point commun de toutes les histoires que les gens vont retrouver dans le livre que j'adore, c'est qu'ils sont tous encore entrepreneurs. Il n'y a personne là-dedans qui n'a pas vécu des trucs horribles. Il n'y a personne là-dedans qui a choisi un autre métier parce qu'être entrepreneur, c'est ce qui les drive. Pour revenir à qu'est-ce qu'on veut faire, il n'y a pas de lien entre la croissance et la santé mentale. Évidemment, la croissance nous met une certaine pression. Le plus gros problème que je vois aujourd'hui chez les entrepreneurs, c'est qu'ils attendent le dernier moment pour crier à l'aide. Mais le dernier des derniers moments. Je suis persévérant en résidence, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, là, mais pour le programme Persévérance entrepreneuriale avec Louis Gardeau, Marcel Dutil. On est plusieurs entrepreneurs qui ont vécu des up and down qui sont là-dessus. Puis ce qu'on se rend compte, c'est quand les gens nous appellent, il est trop tard. C'est dur de dire « il est trop tard ». Quand je dis « il est trop tard », c'est pas « ils sont rendus à s'enlever la vie ». Il est trop tard généralement pour l'entreprise. Parce que souvent, l'entreprise est déjà vraiment dans un gouffre important qu'on aurait pu sortir plus tôt. Mais la plus importante chose qui fait qu'il est trop tard, c'est qu'un entrepreneur, s'il est épuisé, il est déjà en dépression, en burn-out, il va pas réussir à redresser sa compagnie. Il est trop fatigué, il a vidé ses piles. Puis Antoine, la réalité, c'est pour moi, c'est très simple. Le plus gros actif d'une entreprise, c'est son entrepreneur. C'est son fondateur. Et le problème, c'est que comme fondateur, comme entrepreneur, et je suis sûr que tu as fait ça à certains moments, on est bon pour se faire passer en dernier. En fait, l'entreprise va mal, on va travailler plus parce que c'est sur nos épaules que ça y va, il faut travailler plus fort. On va arrêter de dormir. On va commencer à mal manger parce que mal manger, ça prend du bien manger, ça prend du temps. Donc, on va commencer à mal manger, on va arrêter le sport. Et on est dans un cercle vicieux qui va très, très rapidement nous amener vers le gouffre. Parce que si vous êtes en dépression et en burn-out, pensez pas que vous allez avoir l'énergie pour relever votre compagnie. La réalité, c'est pas des consultants. Hein? On a l'histoire de Louis Garneau en tête. C'est pas des consultants qui vont redresser votre business. C'est l'entrepreneur qui l'a fondé, qui va reprendre son courage à deux mains et y aller. Donc, je le dis souvent, c'est pas au moment où vous allez mal que vous devriez consulter un psychologue. C'est quand vous allez bien. Parce que ça prend un an et demi de réussir à en avoir une. Donc, la réalité, c'est peut-être mieux de commencer en amont parce que vous allez mal aller un moment donné dans votre carrière. Moi, ça a re-questionné ma consommation d'alcool, ça a re-questionné mon sommeil, l'importance du sport dans ma vie. Puis en fait, au contraire, aujourd'hui, l'aspect de prendre soin de ma santé mentale ne m'a pas nécessairement amené à vouloir moins de croissance. J'ai envie de doubler à chaque année, acheter mes compétiteurs en ce moment, j'ai des ambitions gigantesques. Mais quand je vais mal, je le sais. Et la business, c'est un marathon. Et le problème, c'est que beaucoup de gens associent l'hypercroissance à un sprint. Mais c'est un marathon. Puis si vous essayez de faire un marathon comme un sprinteur, vous allez manquer d'air rendu à la fin. Par contre, c'est un marathon dans lequel on doit sprinter à certains moments. On pourrait appeler ça un marathon à intervalles. Fait que je suis en M&A en ce moment. Je ne vais pas te dire que je fais ce qui est marqué dans le livre. Je ne vais pas te dire que je dors très bien tous les soirs et que je mange bien, que je travaille pas fort. J'ai un sprint à donner. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Et je sais qu'il ne faut pas que mes batteries se vident parce qu'à la fin du M&A, il va peut-être avoir une transaction. S'il y a une transaction, je vais avoir besoin de l'énergie pour la traverser, pour passer à la prochaine étape. Donc, pour moi, c'est de changer notre perspective sur l'aspect, et surtout dans le monde de la tech, on est beaucoup dans « faut que ça aille vite, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite, faut qu'on lève des fonds ». La réalité, c'est long faire une business. Il faut de la patience, puis il faut l'énergie qui va continuer. C'est ça qui va nous prévenir le plus de gros troubles de santé mentale.
Et c'est souvent quand c'est long qu'on bâtit une plus belle business, qu'il y a des meilleures fondations en place et qu'on est capable d'avoir une valeur un petit peu plus pérenne. Et tournons ça peut-être du bon côté aussi. Il y a le premier chapitre du livre qui est assez fascinant, qui dit « si vous aimez croître, si vous aimez aller vite, si vous avez beaucoup d'ambition, pas de souci. Mais c'est important d'être à fond également sur d'autres passions, comme l'art, comme le sport, comme plusieurs hobbies qui vous reviennent. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Puis peut-être quel conseil, avec tout ce que tu as vécu, que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore trouvé cette passion-là et qui se posent des questions?
L'important, c'est pas juste la passion, c'est de se détacher de son entreprise. Tu vois, je travaille déjà, je te donne un scoop, je pense que je ne l'ai jamais dit, mais tu sais, je travaille sur mon cinquième livre qui va s'appeler « Vous n'êtes pas une famille », qui est sur la culture du sport en affaires. Moi, je suis tanné que les gens disent « c'est mon bébé ». Tu vois, je dînais ce midi avec la fondatrice d'une compagnie qui était vendue plus de 250 millions. Là, elle disait « ah, c'était mon bébé ». En plus, elle l'avait fondé avec son mari. Et j'étais comme « c'était ton bébé, tu l'as vendu ». Ah, un peu mal à l'aise de savoir que tu vendrais tes enfants, puis à part à rire, c'est pas ça que je voulais dire. Mais la réalité, ce qui fait que Piranha, ça a été la plus difficile pour moi, c'est que j'étais devenu Piranha. Et Piranha, c'était moi. Mon nom sur Facebook, c'était Dominique Piranha. Mon identité, c'était ma carte d'affaires. Ma vie, c'était ça. Et quand ta vie, c'est ta business, puis ta business s'arrête, bien, ta vie s'arrête. Donc, je pense qu'il faut commencer à se détacher. Il faut commencer à dire, OK, oui, mon entreprise, j'aime ça. Là, on est tous passionnés. Je suis certain que tu en manges. Et quand j'écoute ton podcast, tu parles des lectures d'affaires. C'est, tu sais, je suis pareil, j'adore ce que je fais. Mais il faut se trouver un peu des trucs à l'extérieur. Il faut réussir à décrocher. Fait que de mon côté, ben, j'ai commencé à faire du sport, au racquetball. Ça me fait énormément bien, du squash, racquetball. Je me suis mis à écrire, même si j'écris pour les affaires généralement. Ben, pour moi, ça reste un passe-temps d'écrire. Même si ça est en lien avec les affaires, c'est pas en lien avec mon entreprise. Je suis allé enseigner à l'université. Pendant 3 ans, j'ai enseigné l'entrepreneuriat, l'ETS. J'adore cuisiner. Donc, je suis un foodies. Donc, tu vas voir, presque tous les soirs à la maison, c'est moi qui cuisine. Ça fait partie de mes moments où je décroche. Je suis papa de 2 petites filles, donc assez présent aussi pour mes enfants, contrairement aux 2 premières années de mes filles où j'étais complètement absent. Je trouvais que c'était un obstacle à ma croissance. Aujourd'hui, je suis devenu un bon père. Ça, je suis quand même assez fier de ça. Mais c'est surtout que je suis détaché. Je sais que Connect & Go, c'est un véhicule. C'est un véhicule qui va aller plus loin que Dominique. Peut-être que quelqu'un va l'acheter. Peut-être qu'un jour, je vais le quitter, je vais le transférer à mes employés. Peut-être que ça va changer de mission, ça va changer de raison d'être, mais ce n'est plus moi. C'est une équipe. C'est un véhicule qui va m'amener vers un prochain chemin. Et de se détacher de son entreprise, c'est très important. Une autre histoire dans le livre intéressante qui est de Marie-Christine qui est devenue alcoolique. Oui. 2 rechutes aussi, Maison Pierre Pelado, suite à la vente de Tyzone. Parce que, et pourtant, elle est devenue alcoolique suite au succès économique. Donc, c'était pas un échec dans son cas, c'était un succès. Mm-hmm. Elle n'avait plus de carte d'affaires, plus d'identité. Elle était devenue personne d'une certaine façon. Et ça l'a amené dans la bouteille à 2 reprises à rechuter.
Donc, on prend une petite pause sur l'épisode en cours pour vous parler du panel d'hypercroissance qui va avoir lieu le 24 mai prochain à Montréal, à l'Hôtel Alt. Donc, c'est notre premier événement présentiel. On a déjà près de 150 billets vendus, c'est pour dire. Et cet événement-là ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide de 2 autres partenaires totalement exceptionnels. Et le premier partenaire, c'est Hello Darwin. Hello Darwin, c'est un des partenaires qui a dit oui en premier lieu, qu'on lui a dit s'il aimerait sponsoriser l'événement. Et je suis tellement fier de vous parler un petit peu de leur entreprise parce que je trouve que leur modèle d'affaires a tellement évolué de manière intelligente à travers les dernières années et je veux vous en parler un petit peu aujourd'hui. Le nombre de subventions que le gouvernement offre est inimaginable, mais personne ne sait comment les avoir. Et Hello Darwin a été capable d'ajuster son modèle d'affaires dans les dernières années pour maintenant accompagner et aider les entreprises à avoir accès à plus de 1600 programmes de subventions canadiennes. Donc, littéralement, Hello Darwin devient le département des subventions pour vous à l'externe. Okay? Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Ils sont capables de vous aider sur des types de subventions au niveau de la croissance, ressources humaines, innovation technologique, virage vert, etc. Et en plus de ça, ils sont tellement confiants dans leur service qu'ils garantissent leurs frais. Donc, si vous ne parvenez pas à avoir au moins 2 fois les honoraires de Hello Darwin en subvention acceptée, ils vont vous rembourser. C'est pour dire comment qu'ils sont confiants. Ils vont également vous offrir un diagnostic, un plan de match excessivement clair pour savoir quel type de programme vous pourriez avoir. Et exclusivement pour les auditeurs de notre podcast, vous allez obtenir 10% sur les forfaits d'accompagnement de subvention de Hello Darwin. Si vous cliquez dans le lien des notes de l'épisode, je vous le dis à l'oral, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Le lien est dans les notes de l'épisode. L'autre partenaire qui également nous aide pour tenir cet événement du 24 mai prochain, c'est Turnbridge. Turnbridge, je suis tellement content qu'il soit également partenaire pour l'événement parce que j'ai eu la chance récemment de m'entretenir avec Pierre-Étienne Bousquet, qui est président et cofondateur de l'organisation, et c'est une belle équipe. C'est une belle équipe qui, en plus d'avoir quasiment, on en a parlé sur le podcast, un taux de rétention qui frôle les 100% au niveau des employés, qui travaille sur les plus gros mandats au Québec, travaille avec les plus grands fleurons québécois. Donc, si vous êtes une entreprise qui écoutez le podcast Hypercroissance aujourd'hui et vous aimeriez une organisation qui peut vous aider dans le développement d'un logiciel, dans le développement d'une application mobile, vous auriez des besoins TI, allez visiter leur site Internet. Turnbridge est une organisation qui est en affaires depuis 2012. Ils ont de l'expérience. C'est une entreprise de plus de 60 employés. Donc, si vous cherchez une firme TI, si vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider au niveau d'une application application mobile que vous aimeriez bâtir ou d'un logiciel spécifique, allez visiter le site de TurnBridge. Maintenant, de retour à l'épisode en cours. Puis ça, c'est un point que j'aimerais aborder avec toi. D'ailleurs, c'était littéralement ma prochaine question. Donc, on a de la suite dans les idées ici. C'est l'identité que les entrepreneurs se donnent, une identité qui est malheureusement trop souvent attachée à notre entreprise. Donc, sachant qu'on est déjà dans le sujet ici, comment qu'on est capable un petit peu de se dépersonnifier de notre entreprise? Comment qu'on peut bâtir un mécanisme en place aujourd'hui, Dominique, pour dire ça, c'est une entité, c'est un véhicule, tu as utilisé le bon terme ici, qui m'aide à atteindre objectif financier, objectif raison d'être, peu importe c'est quoi notre objectif en tant qu'entrepreneur. Et ça, de l'autre côté, c'est Dominique Gagné. Ça, d'un autre côté, c'est Antoine Gagné. C'est quoi les mécanismes que tu as appris à travers ta carrière qui t'aident vraiment à différencier les deux?
Tu vois, la première chose que moi j'ai faite, c'est une planification stratégique de ma vie. Mais je mélange ma vie personnelle et ma vie d'affaires. Puis je te donne un exemple qui m'a énormément fait réfléchir. Je me suis rendu compte qu'il y a certains objectifs que c'était impossible d'accomplir en même temps. C'était impossible, par exemple, pour moi, de dire « je veux être le meilleur père de famille au monde et je veux doubler la business à chaque année ». Je n'étais pas capable. J'essayais après ça de déconstruire les objectifs. Ça voulait dire que j'étais dans l'avion toutes les semaines. Je ne peux pas être le meilleur père si je suis jamais là. C'est impossible. Donc, j'ai dû faire des choix qui est peut-être d'être un peu un moins bon père. Tu vois, moi, j'ai peut-être accepté ça, de dire je ne serai pas le papa parfait, mais je veux quand même de la croissance, je vais trouver mon sweet spot. Après ça, c'est de s'entourer. Puis le problème des entrepreneurs aussi, c'est qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Et ça, c'est l'erreur que j'ai pas faite chez Connected Go. C'est l'erreur que j'ai faite un peu au début. Moi, mon associé, on est deux vendeurs. On vendrait un frigidaire à un Esquimau. On est deux crinqués. Aujourd'hui, mon numéro 2 me ressemble pas du tout. Il est ingénieur. Je dis toujours à la blague qu'il y a une émotion importante, c'est avoir un plan. Il y a toujours un plan. C'est toujours, OK, on va structurer. Il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan. Ben, ça fait qu'aujourd'hui, on est rendu une équipe. Puis aussi, l'aspect d'être vulnérable, ça a permis à mon équipe aussi de prendre les balles, d'accepter que je puisse prendre des pauses, d'arrêter que penser que tout tourne autour de moi. Et ça, c'est vraiment important. De rapidement monter une équipe, très, très rapidement de faire confiance, de déléguer. C'est difficile. Ça m'a pris, je pense, 15 ans à réussir à faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là de faire un podcast avec toi puis de pas être stressé de ce qui se passe au bord de la porte au bureau. De pouvoir partir une semaine et que ça aille bien. Après, il faut aussi accepter qu'on est qui on est. J'aime pas les vacances. C'est simple. Je n'aime pas les vacances. Donc, moi, je prends souvent des journées. Donc, je vais étirer des week-ends. Je vais prendre des journées. J'aime pas partir deux semaines. J'aime ça être au bureau. J'aime la business. Ben, je suis pas mal de ça. Il y a des gens qui disent, ah, faut que tu prennes des vacances. Non, j'aime pas ça. J'ai trouvé un autre spot où je prends du temps avec mes enfants différemment. Donc, c'est, je pense d'être bien, d'être sur son X.
J'adore ce que j'entends. C'est bon, ça, quelqu'un qui le dit, parce que je pense comme toi ici, Dominique. Donc, j'adore ce que j'entends. Bon, t'as fait un livre sur les TDAH. T'en as même fait deux, d'ailleurs. Et il y a un des chapitres qui porte sur les points forts qu'un entrepreneur peut avoir en étant TDAH. Il y a également un petit peu des points faibles. Donc, très souvent, on voyait que ce trouble, comme tu le disais, peut-être que 10, 12 ans de ça n'était qu'une faiblesse, mais dans le livre, on peut vraiment le voir, ça peut aider des entrepreneurs à prendre plus de risques, à être ultra-focus des fois, à être davantage créatif, mais également, ça peut amener un entrepreneur à procrastiner, à oublier, et peut-être même, paradoxalement, des fois, être déconcentré. Dans ton cas, sachant que je pense qu'on a un bon TDAH devant nous ici, à quel point être TDAH t'amène peut-être plus de bon que de moins bon? Comment tu gères ça au quotidien et quels conseils tu pourrais donner peut-être aux TDAH qui nous écoutent?
Ah, puis il y en a sûrement beaucoup, hein, parce qu'on est beaucoup d'entrepreneurs. Souvent, l'exemple que je donne, j'aime beaucoup les images. L'exemple que je donne aux gens, c'est Hulk. Les TDAH, souvent, ça ressemble à Hulk. C'est la personne qui va aller sauver la princesse et qui va réussir à la sauver. Le problème, c'est qu'il a tout détruit sur le chemin. Ça, il s'en fout. Et si tu te rappelles de Hulk, là, quand il va dans une ville, c'est tout tombe, puis il écrase les chars. À la fin, on fait hey, il a sauvé la princesse, mais on oublie qu'il a tué 12 personnes dans des chars en lui pilant dessus. C'est souvent ça, un TDAH. On est intense. Moi, la réalité, le focus, là, je l'ai pas. C'est encore un combat ultime sans arrêt. J'ai 32 bonnes idées par jour. Une chance que j'ai une équipe qui me dit non constamment et qu'on a réussi à se trouver un sweet spot. L'aspect que je me sois fait frauder. Énormément d'entrepreneurs TDAH vont avoir des difficultés au niveau de la gestion financière. On n'est pas très, très bon là-dedans. Parce qu'à moins que ça nous passionne, on a beaucoup de difficultés à payer nos billes à temps, avoir une rigueur de ce côté-là. J'ai appris à m'entourer. Par contre, ben, l'hyperfocus, t'en parles. Ça fait que quand je deviens obsédé sur une idée ou sur une passion, je vais être d'une performance incroyable. Le livre est un bon exemple. J'ai écrit « Et si l'entrepreneur a rendez-vous en 4 semaines? » J'avais 6 mois. Mais j'étais un bon TDAH. J'ai procrastiné, de chez procrastiné. Et je me rappelle, même l'éditeur avait repoussé la date de lancement parce qu'elle a dit « Tu m'as rien envoyé, c'est impossible que tu réussisses. » Impossible que je réussisse, check-moi. Enfermé dans un hôtel, entre une conférence que je donnais au Nouveau-Brunswick, j'ai écrit 184 pages en une journée. Ben, c'est ça aussi être TDAH, c'est de le gérer, mais il y a les blind spots. Fait qu'il faut aussi faire attention parce qu'aujourd'hui, on est souvent dans « Ah, c'est cool le TDAH, oui, mais faisons attention, sachons c'est quoi les blind sides, puis essayons de les gérer, de s'entourer, de trouver des trucs. » Pareil que la bipolarité, on est 10 fois plus de bipolaire dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup. La bipolarité, c'est tough parce que tu as des très hauts, des très bas. Tu vois, un Luc Giguère qui parle dans le livre a réussi à gérer ces épisodes-là. Réussi évidemment à savoir que la médicamentation, dans ce cas-là, était importante. Est capable de prédire des crises pour mieux les gérer. Fait que je pense que c'est dans tous les troubles de neuroatypicité, il y a des points très, très forts, des points plus faibles, mais je pense qu'il y a plus de points forts que de points faibles.
La douance, parlons-en un peu. Je pense que les gens sont capables de mettre une image sur un TDAH, mettre une image sur quelqu'un qui peut être bipolaire, ou du moins on pense. Je pense que la douance, c'est un terme un petit peu moins connu. Peux-tu bien expliquer à l'audience aujourd'hui qu'est-ce qu'on définit par la douance? Et par la suite, on parlera un petit peu de ce qu'on retrouve dans le livre parce qu'il y a des très bons extraits, spécifiquement de Edouard Hénage de Trampoline AI qui donnait certains exemples dans le livre. Mais j'aimerais t'entendre un petit peu ici sur la douance.
La douance, tu sais, puis ton podcast est écouté dans la francophonie, est très peu connu au Québec, extrêmement connu en France. On a vraiment un inverse en France. Le TDAH est très moins connu. Et la douance est très connue. Énormément d'entreprises, entre autres, qui ont mis des programmes pour les zèbres, les doués. Souvent, on appelle ça un zèbre parce que les zèbres ont tous des rayures différentes. Ils ont tous parti de la même famille, mais ont tous des rayures différentes, ce qui est la même chose avec les doués. Parce que contrairement au TDAH, un TDAH, t'en vois un, genre tu me vois, tu te doutes rapidement que je suis TDAH. J'ai le crayon qui fait ça, j'ai la jambe qui shake, j'ai tout. La douance, c'est caché. C'est quoi la douance? C'est simple. C'est le 2% des gens qui ont le plus haut quotient intellectuel. C'est simple comme ça. Donc, c'est pas un trouble non plus, c'est pas une maladie. C'est une particularité. Je te dirais qu'il frôle souvent avec des traits autistiques. Moi, j'ai pensé pendant 10 ans que j'étais peut-être autiste parce qu'il y a énormément de choses. Sentiment d'injustice, difficulté de gérer ma colère, mais à des extrêmes, hypersensibilité, incapacité de me faire toucher si je t'ai pas vu. Donc, si tu arrives derrière moi et que tu me touches, je vais te sacrer un coup de coude inconsciemment. Je suis capable d'écouter à 5 tables quand je vais au restaurant. Donc, si je me focus, je fais de l'hypasthésie. Je suis capable d'écouter très, très loin. Je peux pas marcher derrière quelqu'un qui a des clés. Fait gling, gling, gling. Et c'est quoi la douance? Principalement, souvent, les gens vont associer ça à la pensée en arborescence. Donc, c'est un petit peu comme l'aspect de dire que mon cerveau fait des liens très, 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 très rapidement entre différentes choses. Donc, souvent, on va avoir un sens de la logique extrêmement développé. On va être capable d'avoir des idées très, très, très rapidement. Et ça vient aussi avec l'hypersensibilité. Donc, ça vient avec l'aspect que souvent, quelque chose qui est banal pour quelqu'un peut nous sembler très, très gros, très injuste. Donc, tu vois, moi, la douance, je l'échangerais demain matin contre le TDAH. Le TDAH, je le vois comme un pouvoir. La douance... Je considère que j'ai 70 % de défis et 30 % d'avantages. Et pourtant, tout le monde préférait, on dirait, de base être doué que d'être TDAH. Et on apprend à jouer avec. Et c'est ça le plus important. Plus on se met à lire là-dessus, plus on comprend, plus on est capable d'évoluer avec ça.
Et on dit dans le livre, Edouard Hénage de Trampoline AI, comme je le mentionnais, analyser des situations complexes et amener des solutions innovantes. Ça, c'est un des points qu'on définissait un petit peu de quelqu'un qui a le trait de la douance et qui disait également notre endurance au travail peut être beaucoup plus difficile à faire tenir. Est-ce que c'est un point que tu partages?
Oui, 100%. Ça va tellement vite qu'on est brûlé. On fait que cet aspect-là, vraiment, là, c'est très, très difficile parce qu'encore une fois, souvent les doués, sans s'en rendre compte, ne le savent pas non plus. Mais les gens vont attendre qu'on trouve la réponse. Les gens qu'on arrive vont dire « OK, va plus vite, etc. » Il y a une fatigue mentale, c'est un hamster qu'on a aussi avec le TDAH. Et tu vois, le plus dangereux, souvent je le dis en blague, c'est avoir le TDAH et la douance, qu'on appelle doublement exceptionnel dans le monde de la neurodiversité. C'est cette statistique-là qui fait que tu vas souvent te retrouver en prison parce qu'on n'aime pas les règles. Trouble d'opposition lié avec un sentiment qui va trop vite, un cerveau qui va trop vite. Ça fait quoi? Ça fait des mafieux. Ça fait des Hells Angels. La réalité, ton cerveau va trop vite. T'as un trouble avec les règles. Qu'est-ce que tu fais? On s'entend, ces gens-là sont intelligents. Malheureusement, ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle, ils détruisent des vies, mais au final, ils ont lancé des cartels, ils ont lancé des réseaux dans lesquels ils se parlent en nom de code toute la journée. Il faut être doué pour faire ça. Il faut être différent. Donc, c'est aussi pourquoi j'ai déjà écrit un blog sur les affaires en disant qu'il y avait énormément de liens entre les criminels et les entrepreneurs à certains moments, mais dans la douance, c'est un petit peu un cas. Donc, évidemment, je suis très, très d'accord avec Edouard, qui est un super entrepreneur, mais tu vois ce que Trampoline AI est en train de faire, qui est un projet qui vise à révolutionner le monde de la connaissance en entreprise. C'est hallucinant, mais il faut des bébêtes spéciales pour penser à ça et persévérer dans ce monde-là.
Pour quelle raison, Dominique, tu penses que les entrepreneurs devraient lire le livre que tu viens d'écrire? Parce que je pense qu'au-delà de l'aspect de la santé mentale qui de plus en plus est démocratisé. On dirait qu'il y a un aspect, quand je le lisais, qui est beaucoup plus profond que ce que je pensais réellement. Et je parle ici surtout des conséquences sur le moyen long terme de délaisser et peut-être même d'être un petit peu naïf par rapport à la santé mentale, de le voir comme quelque chose de secondaire, de pas tellement important. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs aujourd'hui qui peut-être se posent des questions, négligent l'importance de tout ça?
Bien, tu sais, la première chose, c'est, je pense que le livre s'adresse à deux types de personnes. Fait que oui, aux entrepreneurs. Tu sais, énormément de gens qui écoutent le podcast sont entrepreneurs, ça s'adresse à eux. Parce que la plupart des gens, pour ne pas dire la totalité qui ont lu le livre à qui j'ai parlé, m'ont dit « Hey, ça fait du bien. Je suis pas si fou. Je me retrouve là-dedans. Je comprends plus de choses. » Donc, moi, j'ai toujours dit, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Lire le livre, ça t'amène des histoires. Ça t'amène des gens qui l'ont vécu pour vrai. Fait que c'est pas un livre non plus théorique. C'est pas un livre de recherche. Oui, il y a de la théorie, parce que c'est important d'aller diguer dans les chiffres, de mieux comprendre, mais il y a des histoires touchantes de gens que vous connaissez probablement. Parce qu'il y a quand même plein d'entrepreneurs, puis pas juste d'entrepreneurs tech. T'sais, il y a des gens dans la restauration, des gens dans la techno, des gens qui ont été dans des milieux beaucoup plus traditionnels, dans la consultation, donc un petit peu de tout. Fait que le livre vise à mieux comprendre, à se préparer aussi, parce que je pense que moi, je fais beaucoup de liens entre le sport et les affaires. Si tu veux faire les Olympiques, il faut que tu te prépares. C'est pour ça que la plupart des Olympiens ont des psys, des nutritionnistes, sont des gens qui vont les accompagner. Ben, si vous voulez réellement faire un succès, vous avez besoin de ça. Et lire le livre, ça va éveiller les consciences. Mais tu vois, la personne que je trouve le plus importante qui devrait lire le livre, c'est pas les entrepreneurs, c'est leur famille. C'est les banquiers, c'est les syndics de faillite. C'est les gens qui travaillent avec des entrepreneurs et surtout leur famille. Parce que les entrepreneurs, on est seul au sommet. Puis quand ça va mal, on va pas se confier. On va le cacher. On a de l'honneur, on a de l'ego malheureusement. Et une des choses que je dis souvent aujourd'hui en conférence quand je parle de santé mentale, c'est que si vous savez que la business de quelqu'un va mal, qu'il vous donne l'impression qu'il va vraiment bien, posez-vous des questions. Je t'ai donné un exemple tantôt d'un nom que je ne vais pas nommer, mais un entrepreneur assez connu au Québec. Un succès financier incroyable pendant des années, qui était sur plein de podcasts, un peu partout. Ben, il s'est enlevé la vie le 24 décembre. Ses enfants sont entrepreneurs. Une de ses bonnes amies, c'était Isabelle, présidente de la BDC. Et le gars a fait un plan d'affaires, donc il a liquidé son entreprise, s'est assuré que tout allait bien, avant de prendre la décision fatidique. Personne ne l'a vu venir. Il y avait des petits signaux. J'ai parlé à des gens, mais jamais les gens penseraient que cette personne-là serait allée jusque-là. Ben, faudrait peut-être que les gens comprennent mieux comment on est. Soient capables de poser des vraies questions. Comment tu vas? Versus comment ça va? Puis se foutent complètement de la réponse. Et je pense que plus on en parle, ce podcast-là, et l'aspect que peut-être que toi, Antoine, un jour, tu fasses preuve de vulnérabilité, puis tu dis, hey, by the way, j'ai l'air d'un success story. Moi, tu sais, de l'extérieur, tu as l'air d'un success story. Mais dis, il y a un moment où je me suis mis en doute. Il y a un moment où j'allais pas bien. D'arrêter d'être dans le hustle culture, de dire travailler plus, travailler plus, travailler plus. Et souvent, en blague, sur ton podcast, j'aimerais que tu dises, est-ce que vous lisez des livres d'affaires ou d'autres choses qui n'est pas d'affaires? Pourquoi pas? Parce que c'est un business qui compte. C'est pour le chat. Je pense qu'on va changer un petit peu. Puis tu vois, ce matin, l'entrepreneur que je te parle qui s'est enlevé la vie, son fils m'a écrit. Il dit, j'ai pas eu le courage, je sais ce que tu fais, merci, j'ai pas eu le courage de t'écrire jusque-là, mais j'aimerais ça qu'on aille prendre un café, je veux m'impliquer. Ben, je pense que commencer à créer une boule de neige, va devenir de plus en plus grosse. Pour changer un peu cette vision-là que l'entrepreneuriat, c'est les dragons, que c'est facile, des chèques, que c'est les influpreneurs qui s'amusent à faire semblant que l'argent tombe du ciel et que c'est facile. C'est pas ça, être entrepreneur. Et je pense qu'on doit changer ça. Donc, moi, j'invite tout le monde à lire le livre, mais pas juste les entrepreneurs. Beaucoup les gens qui les côtoient devraient lire ce livre-là. Ça va les aider peut-être à comprendre un peu plus comment on se sent seul. La pression qu'on a quand on n'est pas capable de faire la paye, parce qu'évidemment, il y a énormément qui tourne autour de la précarité financière. Donc, je vois le livre beaucoup plus large que juste pour les entrepreneurs. Et c'est vraiment ça le plus important. Puis 100% de tout l'argent du livre va au seul programme aujourd'hui qui aide les entrepreneurs à rebondir, qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale. Pas un dollar qui vient des poches de Dominique, de qui que ce soit. Tout va là, parce que ce programme-là a de l'argent pour aider à peu près 300 entrepreneurs en ce moment. Ils ont reçu 1000 appels. Il faut qu'un entrepreneur prenne le téléphone puis les appelle. Je ne sais même pas si moi, j'aurais eu le courage de faire ça.
Ben non,
imagine quand il y a 1000 personnes. Fait que c'est un peu l'idée. Fait que les gens peuvent se le procurer sur foliedentreprendre.ca parce qu'évidemment, si les gens l'achètent en direct, ça donne plus à Persévérance entrepreneuriale que l'acheter en librairie, mais il est disponible partout. Et c'est vraiment ça la raison, en fait, c'est de redonner puis de créer une vague. Et moi, j'aimerais ça ne plus être le poster boy de la santé mentale. Parce que c'est de même que je me sens en ce moment, j'ai l'impression d'en parler beaucoup. Mais j'ai envie de commencer à avoir des Antoine, commencer à avoir d'autres entrepreneurs comme je commence à voir qui prennent la parole et qui disent « Hey, mes chums, si vous allez mal, vous êtes entrepreneur, écrivez-moi. Ça, ça peut peut-être sauver une vie. Puis quand on se dit, hey, ça peut peut-être sauver une vie, je pense qu'il y a une raison d'être à faire tout ça.
Dominique, c'est toujours totalement fascinant de discuter avec toi. Allez vous procurer le livre, je l'ai lu. C'est une lecture très rapide, très intéressante, c'est-à-dire en quelques jours seulement, vous êtes capable de passer à travers le livre et c'est assez captivant. Donc, je pense que ça va vous ouvrir les yeux. Soyez prêts, il y a des bouts qui sont plus difficiles à lire que d'autres. Mais encore une fois, c'est la réalité que tous et chacun qui sont en affaires et également les gens qui sont proches du monde en affaires doivent comprendre et doivent lire. Dominique Gagnon, merci beaucoup. Je le répète, on va mettre des liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous procurer le livre. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.